Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous lisons les méditations métaphysiques de René Descartes. La première méditation commence par une libre décision. Je décide de douter de tout parce que je veux découvrir la vérité, connaître la vérité. Ce doute, hyperbolique, excessif, m'a fait douter de l'existence du monde et l'existence de mon corps et de toute chose hors de moi. La seconde méditation m'a permis de parvenir à la première vérité ou la première certitude, ego sum, moi, je suis. Moi qui doute de tout, je ne peux pas être rien. Le moi est indéniable et indubitable, mais ce moi s'ignore encore. Ce moi est parti ensuite à la recherche de soi-même. Moi, qui suis-je? Moi, que suis-je? J'ai découvert que le moi, c'est une puissance de pensée et que penser veut dire beaucoup de choses. Penser, c'est sentir. Penser, c'est imaginer, c'est vouloir. Bien sûr, penser, c'est l'intelligence. Nous sommes ici dans une métaphysique nouvelle qui est une métaphysique chrétienne pour Descartes. Ce qui veut dire que pour Descartes, ce qui est à retenir, c'est ce que le Christ nous fait connaître de Dieu dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, à savoir que Dieu est esprit. Et ce que Descartes découvre ici, c'est que l'homme est esprit. Il faudra voir que cette vérité, à savoir que l'homme est esprit, n'enlève rien au corps, mais au contraire nous permet de retrouver d'une façon nouvelle le corps. Ce sera l'objet de la sixième méditation. Pour l'instant, donc, où en suis-je ? J'ai douté de tout, j'ai découvert que je suis, j'ai découvert ce que je suis, mais je suis seul avec moi-même et je suis seul au-dedans de moi-même. Je suis rentré dans le trésor de mon esprit, j'ai examiné mes pensées, j'ai découvert que tout était douteux, sauf ceci que moi, je suis. Il me faut maintenant savoir s'il y a quelque chose hors de moi, s'il y a un monde hors de moi, ou bien si je suis seul au monde, comme l'écrit Descartes. Formule paradoxale parce que s'il n'y a rien hors de moi, il n'y a pas de monde, et donc je suis seul, tout court, et non pas seul au monde. Il n'y a même pas de monde. Comment m'y prendrais-je maintenant pour découvrir s'il y a quelque chose hors de moi ? On m'objectera qu'il suffit d'ouvrir les yeux, de voir le soleil, les montagnes, etc. Mais ce n'est pas la démarche que j'ai entreprise. Selon la démarche qui est la mienne, je ne peux découvrir quelque vérité que par le cheminement de la pensée. J'ai douté de tout, j'ai découvert le je, la substance pensante, et c'est maintenant donc par la voie de l'intériorité encore, qu'il me faut trouver toute chose autre et qu'il me faudra trouver Dieu. C'est ce qu'indique la troisième méditation. Le titre est « De Dieu qu'il existe ». Puisque les six méditations sont à accomplir en six jours, nous sommes ici à l'aube du troisième jour. Et nous savons que dans la tradition biblique, le troisième jour, c'est le temps de la manifestation de Dieu. Et ce n'est peut-être pas par hasard que la méditation troisième jour, nous fait découvrir Dieu. Le titre est « De Dieu qu'il existe ». Comment donc ce moi qui est revenu à soi pourra-t-il venir à Dieu ? Comment pourra-t-il venir à l'idée de Dieu ? Et par là, à Dieu. Eh bien, le chemin que me propose Descartes est un chemin toujours de l'intériorité. Je rentrerai en moi-même, je m'entretiendrai seulement moi-même avec moi-même et j'inspecterai mon intérieur. Il s'agit de devenir plus familier à moi-même, c'est-à-dire mieux connu à moi-même. Or, le problème, c'est que pour l'instant, m'étant retiré en moi-même, je suis seul avec moi-même. Et la règle du jeu fait que je n'ai pas d'autre possibilité pour répondre à ma question que de considérer ce que je découvre en moi-même. Ma question, c'est : y a-t-il quelque chose hors de moi ? Comment m'y prendrais-je ? Eh bien, en examinant mes pensées. La règle du jeu sera donc la suivante. Pourrais-je trouver en moi une pensée, une idée, qui soit telle qu'elle me rende certain qu'il y a quelqu'un d'autre que moi, qu'il y a peut-être dans un premier temps quelque chose d'autre que moi hors de moi. Il faut donc que j'examine toutes mes idées pour considérer s'il y a une idée au moins dont je pourrais être certain que je ne suis pas l'auteur. Si je peux être certain que toutes les idées qui sont en moi, d'une façon ou d'une autre, c'est moi qui en suis l'auteur, eh bien à ce moment-là, je serai à jamais métaphysiquement parlant, seul avec moi-même, seul avec mes idées. Allons-y. Comment nous y prendrons-nous? Eh bien, je l'ai dit, en examinant les pensées qui sont en nous, les idées qui sont en nous, et en cherchant l'origine des idées. Alors, Descartes retient trois sources, trois origines des idées. Il y a des idées, donc des pensées des choses qui nous viennent par les cinq sens, des pensées des choses qui nous viennent par notre entendement, à partir des données des sens. Prenons un exemple. Nos yeux nous permettent de déceler le soleil, de pressentir, d'apercevoir à peine le soleil, mais nous savons qu'il existe. Et à partir de la sensation du soleil, l'astronome construit une idée plus précise du soleil. Et c'est des choses que l'œil seul ne sait pas. Donc nous avons d'abord la sensation du soleil, puis l'idée élaborée par le savant relative à la nature du soleil, les propriétés du soleil. Mais il y a encore une troisième sorte d'idée, qui sera appelée idée innée, c'est-à-dire des idées qui sont nées avec moi, des idées qui sont des semences de vérité inhérentes à mon esprit et dont je ne peux pas ne pas m'apercevoir, si je pense avec sérieux, que je n'en suis pas l'auteur. Alors, en vérité, dans cette troisième méditation, il y a une seule idée qui sera telle, c'est l'idée de Dieu. Mais ce qui importe ici, ce n'est pas seulement le résultat brut, ce qui importe, c'est le cheminement. Comment le moi solitaire, seul avec soi, c'est-à-dire avec ses pensées, viendra-t-il à découvrir en lui Dieu? Comme l'indique Descartes au début de la troisième méditation, au point où j'en suis, il me reste donc, du point de vue du questionnement métaphysique qui est le mien, deux questions, deux points à examiner. Je dois examiner s'il y a un Dieu, et ensuite s'il est trompeur ou s'il est vérace. Examinons donc la question de savoir s'il y a un Dieu. La croyance naïve relativement à l'origine des idées consiste à croire que les idées nous viennent des sens, et seulement des sens, primo, et secondo, que ces idées sont causées par les choses hors de moi, et que les idées qui sont en moi ressemblent aux choses hors de moi. Je ne rentre pas dans le détail de cette argumentation. Descartes montre que l'idée est non pas une modification d'un corps, mais une modification ou un mode de la pensée. Donc une idée relève de la pensée de toute façon, quelle qu'elle soit. Continuons. J'examine les idées qui sont en moi. Et je m'aperçois qu'il y a des idées qui sont telles que il m'appartient de les former, de les déformer, de jouer avec elles. Pour prendre un exemple, je peux imaginer un cheval, je peux lui ajouter des ailes, en faire un cheval ailé, et lui mettre autant d'ailes que ma fantaisie le voudra bien. En revanche, il y a des idées, ou plutôt il y a une idée, qui est tout à fait différente, et qui est l'idée de perfection, qui se retrouvera dans la cinquième méditation. Cette idée, c'est l'idée de Dieu. Comment y parviendrai-je? Eh bien, en commençant par comprendre que la plupart des idées qui sont en moi sont des idées que j'ai pu tirer de l'idée que j'ai de moi-même. C'est ce qu'écrit Descartes dans la troisième méditation. Il y a quelques idées qu'il semble que j'ai pu tirer de l'idée que j'ai de moi-même, comme celles que j'ai de la substance, de la durée, du nombre, etc. Alors, expliquons cela, parce que là aussi c'est une découverte tout à fait étonnante et prodigieuse de Descartes. Cela veut dire que le prototype de toutes les idées, ou l'archétype de toutes les idées, c'est l'idée que j'ai de moi-même. Prenons un exemple, l'idée de la substance. Eh bien, je ne savais pas ce qu'était une substance avant que d'avoir découvert ce que je suis. Et ayant découvert ce que je suis, la nature de l'âme humaine, j'ai découvert et j'ai eu pour la première fois l'idée claire et distincte d'une substance. Et c'est donc à partir de l'idée de l'âme comme substance que je sais ce que signifie être une substance. Ce qui veut dire que lorsque Descartes parle de la res cogitans, de la chose qui pense, il ne projette pas la conception vulgaire de la chose sur la substance, mais qu'au contraire, il projette sur la chose le concept spirituel de la substance. Ça veut dire donc que ce qui est connu en premier lieu et ce qui est mieux connu, c'est l'âme. L'âme est mieux connue que le corps, et l'âme, se connaissant, connaît toute chose par différence d'avec elle-même. Il y a donc là une déduction des notions fondamentales de la métaphysique à partir de la nature de l'âme humaine, de l'esprit humain, la substance, la durée, etc. Pareillement, j'ai une idée de la durée à partir de l'expérience qui est la mienne de la durée. Donc je vois ici que toutes ces idées, je les tire de l'idée que j'ai de moi-même. Y a-t-il donc une idée que je ne peux pas tirer de moi-même? La conclusion de Descartes, c'est qu'il y a une seule idée qui soit telle que, l'ayant examinée, je sais que je ne l'ai pas tirée de moi-même. Cette idée, c'est la seule idée de Dieu. Je lis, « Partant, il ne reste que la seule idée de Dieu dans laquelle il faut considérer s'il y a quelque chose qui n'ait pu venir de moi-même. » L'idée de Dieu fait exception. Je peux démontrer que d'une façon ou d'une autre, le moi ou l'âme humaine est à l'origine des idées qui sont en elle, à partir de l'idée qu'elle a d'elle-même, l'âme. Mais il me faut maintenant examiner si l'idée de Dieu peut être aussi déduite de l'idée que j'ai de moi-même. Et à ce moment-là, je m'aperçois que je, c'est pas je en tant qu'individu, c'est le je dans son universalité et sa vérité, je peux être l'auteur de toutes les idées qui sont en moi, mais il y a une idée dont je ne peux pas être l'auteur, cette idée, c'est l'idée de Dieu.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Je peux me penser comme auteur de toutes les idées qui sont en moi, sauf une, l'idée de Dieu. Regardons comment Descartes pense le nom de Dieu et l'idée de Dieu, Dieu donc. Je cite, « Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont existent, ont été créées et produites. Il est manifeste ici que le Dieu dont parle Descartes est le Dieu chrétien, le Dieu judéo-chrétien, le Dieu révélé. Cependant, c'est ici une difficulté, parce que ce que nous voyons, c'est que Descartes ne retient pas de Dieu d'abord ce que la révélation nous fait connaître, à savoir la révélation que Dieu fait de Dieu lui-même, mais qu'il retient de Dieu ce que la raison lui permet de connaître, ce qu'il avait indiqué au commencement, en montrant qu'il examinera la question de Dieu et de l'âme, non pas au regard du discours de la théologie, mais au regard du discours de la philosophie. Il y a donc ici une difficulté. Le Dieu dont parle Descartes est bel et bien le Dieu chrétien, mais puisque c'est un Dieu qui est créateur, un Dieu qui est auteur du monde, un Dieu qui est éternel et un Dieu qui est infini. Mais cependant, c'est par la voie de la raison que Descartes examine ce que nous pouvons dire de vrai à son sujet. Alors, puisque je peux être l'auteur des idées qui sont en moi, sauf de l'idée de Dieu, comment pourrais-je le démontrer? Qu'est-ce que cela veut dire? Je lis Descartes encore. Or, ses avantages, à savoir être infini, éternel, immuable, ces avantages sont si grands et si éminents que plus attentivement je les considère et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine de moi seul. Et par conséquent, il faut nécessairement conclure de tout ce que j'ai dit auparavant que Dieu existe. Voilà donc la conclusion de tout ce cheminement. Quand je pense l'infini, l'éternel, l'immuable, le tout-puissant et le créateur, je m'aperçois que cette idée ne peut pas tirer son origine de moi seul. Alors, on objectera que je pourrais peut-être l'avoir tiré de moi-même, puisque je suis capable de produire des biens, que j'ai une certaine puissance, une certaine connaissance, et qu'il suffira que je fasse passer tout cela du fini à l'infini. Mais c'est là que nous découvrons une des pensées les plus géniales de Descartes, promise à une immense postérité. Que dit Descartes? C'est qu'apparemment, ce qui est premier, c'est l'idée d'un être fini. Et que par élargissement, augmentation, je passe progressivement de l'idée du fini à l'idée de l'infini. Mais la grande découverte de Descartes, c'est que c'est l'inverse qui est vrai. Ce qui est premier, ce n'est pas le fini, ce qui est premier, c'est l'infini. Comme il le dit ici, donc, j'ai en quelque façon, premièrement, en moi, la perception, la saisie de l'infini que du fini, c'est-à-dire de Dieu que de moi-même. Ce qui est premier, c'est l'infini. Voilà la grande découverte de Descartes, l'idée de l'infini en moi. Cette idée sera notamment reprise par Emmanuel Lévinas au XXe siècle, qui en fera un des points les plus importants de sa méditation, lui aussi, en retrouvant d'ailleurs le cheminement cartésien. Emmanuel Lévinas parlera de la rupture de l'immanence. Bien, comprenons ce que cela veut dire et restons avec Descartes. J'ai pris la décision de penser, en doutant de tout. Je suis rentré en moi-même et je suis seul avec moi-même, c'est-à-dire avec mes pensées. J'ai examiné mes pensées, mes idées, et je m'aperçois que la plupart de mes pensées, je peux en être l'auteur. Qu'est-ce que j'ai découvert maintenant? J'ai découvert une idée dont je ne peux pas être l'auteur, et par conséquent une idée qui rompt l'immanence, qui me fait sortir de moi-même, une idée par laquelle je sais qu'il doit y avoir quelqu'un et que ce quelqu'un est nécessairement l'auteur de cette idée. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'idée de l'infini est première. Ce qui est premier, c'est l'infini, et c'est parce que j'ai l'idée de l'infini que je peux, en regardant certaines choses, dire qu'elles sont finies. Voilà le grand renversement cartésien, voilà la grande trouvaille de Descartes. Ce qui est premier, c'est l'idée de l'infini. Et quand je me dis fini, quand je me sais comme fini, c'est donc seulement par négation de l'infini que je me comprends comme tel. Alors cela fait difficulté et nous retrouverons la difficulté plus tard. Donc voilà la grande découverte. Ce qui est premier, c'est l'infini. Et ce qui est pensable à partir de l'infini, c'est le fini. Descartes ajoute aussitôt que je ne comprends pas l'infini et qu'il se trouve en Dieu une infinité d'attributs que je ne comprends pas. Nous retrouverons ça chez Spinoza, Dieu sera pensé comme une substance infinie composée d'une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que deux, la pensée et l'étendue. Chez Descartes, donc, nous connaissons quelque chose de Dieu, nous savons que Dieu est l'infini, mais cet infini est inépuisable, cet infini est insaisissable. Et nous touchons là un paradoxe que j'annonçais tout à l'heure, c'est que l'idée de Dieu est une idée claire et distincte, j'ai l'idée claire et distincte, précise de l'infini, mais en même temps elle est incompréhensible. Je ne comprends pas l'infini. J'ai une idée de quelque chose qui reste incompréhensible pour moi. On le voit par exemple déjà en mathématiques, où un nombre infini n'a aucune des propriétés des nombres finis, et où il transcende tout nombre fini. J'ai donc bel et bien en moi l'idée d'un Dieu infini, qui est l'infini positif en acte, et cet infini positif en acte transcende tout ce que je peux connaître. Et je ne peux connaître une chose comme finie que par l'idée de l'infini. Donc je ne suis pas parvenu donc à l'infini, ou à l'idée de l'infini, en augmentant des perfections, certaines perfections, mais au contraire, j'ai saisi, comme tout d'un coup, l'idée de l'infini en acte, et je m'aperçois que bel et bien, je ne peux pas en être l'auteur. Si je ne peux pas en être l'auteur, il faut donc bien qu'il y ait quelqu'un qui soit l'auteur de l'idée de l'infini, qui est mise en moi, qui est découverte en moi. Et c'est par là donc que je peux sortir de moi, c'est cette rupture de l'immanence dont je parlais, cette ouverture, cette transcendance qui me fait découvrir en moi l'infini. On notera une petite chose intéressante, c'est que on dit souvent, enfin on imagine Descartes cartésien, et on découvre pourtant ici que Descartes n'est pas cartésien au sens naïf où on le dit. Puisque si être cartésien signifie s'en tenir à du clair et à du distinct et à du démontrable, certainement que Descartes s'en tient à du clair et du distinct et du démontrable, mais toute la pensée de Descartes et le monde lui-même est suspendu à un Dieu dont nous savons qu'il est l'infini, mais cet infini reste pour nous incompréhensible. Tout est donc suspendu à de l'incompréhensible, à savoir la nature même de Dieu. À partir de là, Descartes continue son cheminement et introduit une nouvelle preuve. C'est, on peut l'appeler, la preuve de l'existence de Dieu par l'idée que j'ai de moi-même. Puisque j'ai une première preuve, c'est une preuve de l'existence de Dieu par l'idée de l'infini. Puisque ce n'est pas moi qui en suis l'auteur, il faut bien que Dieu lui-même soit l'auteur de l'idée de l'infini qui est en moi. Maintenant, je m'intéresse à l'origine du moi. Quelle est l'origine du moi, de ce moi qui pense ? Eh bien, est-ce que c'est moi-même ? Est-ce que je me suis donné l'être ? Est-ce que je pourrais me donner l'être, par exemple, à l'instant de ma mort ? Il n'en est rien. Je découvre que la vie m'est donnée, que l'être m'est donné, et je découvre que je n'ai pas le pouvoir de me conférer l'être. Mieux, je découvre que si je suis, c'est grâce à un autre, et il me faut maintenant chercher quel est cet autre. Est-ce que ce sont mes parents ? Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est la nécessité du jeu des atomes ? La thèse de Descartes ici, c'est que cet autre dont je dépends ne peut être quelqu'un d'autre que Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'origine du moi. Pourquoi ? Parce que je ne serais pas celui que je suis si je n'avais pas l'idée de l'infini en moi. Voilà, nous sommes ici devant une des plus belles pensées des penseurs chrétiens. La découverte que, primo, l'idée de l'infini est en moi, secondo, que c'est par cette idée en moi de l'autre, de l'infini, que je me comprends moi-même comme penseur et comme âme créée finie. Descartes conclut sa méditation troisième par une page magnifique en montrant que, de même qu'un peintre signe son tableau par sa signature, de même Dieu a signé son ouvrage, mais que cette signature, maintenant, c'est l'idée de l'infini. Donc il y a dans l'âme humaine la signature de Dieu, ce qui fait que, en voyant un Rembrandt, je peux au premier coup d'œil dire « c'est un Rembrandt », en voyant une âme humaine, au premier coup d'œil, je peux dire « c'est un Dieu ». Je veux dire par là, c'est une œuvre de Dieu. Elle porte la signature de son auteur. La troisième méditation me permet donc de terminer par trois points capitaux. L'admiration, l'intuition et l'adoration, c'est-à-dire l'amour. Une fois que j'ai découvert en moi l'idée de l'infini, quelle est l'attitude qui convient ? L'attitude qui convient, c'est de s'apercevoir que l'idée de l'infini, c'est Dieu lui-même. Et à ce moment-là, la bonne attitude consiste à contempler cette idée de Dieu, donc à contempler Dieu, et à s'étonner. L'étonnement est capital ici parce que l'étonnement signifie que jamais je ne comprendrai pleinement. Cela reste incompréhensible. Et enfin, le dernier acte, c'est l'adoration. Et il n'y a pas d'adoration sans amour. L'adoration de Dieu, c'est l'amour. Descartes, donc, nous a conduit du doute radical, hyperbolique, à l'amour de Dieu.